L'histoire des aumôniers des Basques aux États-Unis, c'est le thème d'une conférence d'Argitxu Camus Etxekopar, historienne, qui a évoqué le rôle aussi bien spirituel, social que culturel des aumôniers des Basques aux États-Unis. Cette conférence, organisée par les Amis de la Vieille Navarre, a eu lieu en la mairie de Saint-Jean-Pied-de-Port le 20 mai 2017. Argitxu Camus Etxekopar.
Donc je suis Argitxu. Et on va donc parler du rôle des aumôniers des Basques aux États-Unis. Donc, bien sûr, on parle des aumôniers. Vous avez sans doute connu les aumôniers qui ont été envoyés par le diocèse de Bayonne à partir des années 60. Mais il faut savoir qu'avant ça aussi, il y avait eu d'autres initiatives. Et donc, on va parler un petit peu de tout ça. Et il y avait aussi des initiatives en Amérique du Sud aussi. Donc, même brièvement, on en parlera, voilà, pour que vous ayez une idée un petit peu globale de la chose. Donc, en deux mots, donc dire que mes recherches donc sont sur l'immigration des Basques vers les Amériques et surtout sur l'expérience des Basques aux États-Unis. Et c'est donc dans le cadre de ma thèse à l'université du Nevada à Reno que je m'étais intéressée aux institutions basques formelles et informelles. Donc qui ont été créés au cours de l'histoire, 19e et 20e siècle, leur évolution. J'avais également regardé un petit peu la construction d'une identité basque originale aussi qui avait été qui s'était produite là donc aux États-Unis et ailleurs. Et je m'étais rendu compte que justement dans ce phénomène migratoire aux États-Unis, les aumôniers des Basques, les prêtres basques qui avaient été envoyés là-bas ou qui se trouvaient là-bas pour d'autres raisons, étaient très très importants également dans cette communauté basque. Et voilà pourquoi j'avais décidé de leur consacrer un chapitre également dans ma thèse. Parce que comme on le verra, bien sûr, ils avaient un rôle spirituel très important, mais le rôle allait bien au-delà de ça parce qu'ils avaient aussi un rôle social et culturel également, voilà, très, très important, de premier plan. Donc, en guise d'introduction, juste rappeler que là, on va parler de la période que l'historiographie qualifie de massive, c'est-à-dire l'émigration massive d'Européens, dont les Basques, vers les Amériques. Donc, cette période massive, c'était entre 1830 et 1930, et même les années 60, 1960, en ce qui concerne le Pays Basque. Et vous savez très bien que la base navarre a été touchée par ce phénomène jusqu'à très tard, voilà, jusqu'aux années 60, parce que les Basques ont continué à émigrer massivement jusqu'à cette date-là. Bon, dire que c'était donc une période d'émigration massive et que l'Église catholique assez vite n'a eu de cesse d'exprimer son désarroi quant à ce problème. Ils voyaient ça comme un problème car ça représentait un danger pour la foi de ceux qui partaient à l'extérieur. Ils avaient cette peur-là. Donc c'est vrai qu'il y avait donc des discours de l'Église catholique, de la hiérarchie, qui essayaient d'inciter ces jeunes personnes à rester ici sur le sol parce qu'ils avaient peur qu'une fois passés donc l'Atlantique, ils perdent leur foi. Et c'est vrai que ce discours était bien souvent relayé par les prêtres, parmi leurs paroissiens. Et c'est justement cette idée qui transparaît dans un petit article très intéressant qui était paru en 1894 dans un mensuel qui était donc bascophone, qui était édité par Jean-Pierre Goitino, qui était né à Ainhoa, qui avait été enseignant donc au Labour et en Basse Navarre et qui ensuite avait décidé d'émigrer aux États-Unis. Et Goitino avait travaillé comme notaire à Los Angeles, il avait également un ranch à côté de Los Angeles, et il avait donc décidé de lancer un mensuel à destination des Basques des États-Unis. Et ça s'appelait donc Californiaco Eskualgeria. Donc ça, entre 1893 et 1898. Et vous avez là une photo de Jean-Pierre Goitino et avec également une photo du tout premier numéro de Californiaco Eskualgeria. Bon, il faut savoir que ce n'était pas le premier mensuel qui était paru aux États-Unis, parce que quelques années auparavant, 10 ans auparavant, en 1885, Martin Biscaylus avait également lancé un mensuel, mais qui avait eu une vie très courte, parce qu'il y avait seulement eu trois numéros. Mais comme California Coesqualeria, celui de Martin Biscaylus, qui était Eskualdun Gazeta, était rédigé entièrement en basque. Donc, comme je le disais, on va voir maintenant une citation qui montre bien un petit peu la peur donc, de l'Église catholique, de la hiérarchie, de certains prêtres aussi qui relayaient ce discours, et du coup, et bien des parents également qui voyaient leurs enfants partir et qui avaient aussi peur pour la foi de ces jeunes filles et de ces jeunes garçons qu'ils voyaient partir. Donc voilà, donc c'est en basque, mais il y a la traduction en bas en français. Son baitaliz ez dugu aditu erraiten eskual herri maitean, Ameriketarat heldu ziren mutiko gazteeri. Joan zarezte leku basa batzuetarat, nun ez baita ez apesik ez elizik. Laster ahantziko dituzue gure erlijione sainduaren doktrina eta manamenduak, gaixoak, eroriko zarezte pagano batzuen artean, eta fermutasun frango beharko duzue zuen erlijioneari jarraikitzeko. Hola mintzo dira askotan gure sorlekuko burrasoak partitzen direlarik, maiz sekulakotz, bere ume maiteetarik. Eta fede zabaleko diende horiek maiz sinhesten dute bere semeak ahuntin pio bilhagatuko direla Ameriketako lura hunkitu ordukotz. Donc ça c'était un article écrit par Goitino lui-même. Qui voulait donc exprimer ce que beaucoup de personnes pensaient. Mais lui, bien sûr, il voulait contrecarrer cette façon de penser parce qu'elle disait que ce n'était pas forcément vrai. Voilà. Pour ce qui est de la pratique religieuse des Basques aux États-Unis, je voudrais maintenant parler de travail très important qui était paru en 1955. Les Basques dans l'Ouest américain, certains d'entre vous connaissent peut-être le livre ou du moins son auteur. Hein. Donc ça avait été fait par Adrien Gachitegui, il avait fait un gros travail de terrain parmi les Basques dans l'Ouest américain en 1950. Et le produit de son travail avait été donc publié quelques années plus tard en 1955. Et parmi d'autres choses, c'est vrai qu'il étudie la pratique religieuse des Basques aux États-Unis. Et c'est vrai que quand on lit ce livre, on a quelques exemples de cette peur justement que du coup certaines personnes pratiquent beaucoup moins après l'émigration. Et ça, il le voit surtout dans le cas des hommes et particulièrement les hommes qui avaient une occupation de berger, parce que c'est vrai qu'ils étaient bergers pendant de très très longs mois. Dans leur camp de berger, ils avaient très peu l'occasion de descendre dans les bourgades et donc aller se confesser ou aller à la messe, etc. Et une des personnes interviewées donc par Gachitegui parle un petit peu de ce problème d'une façon assez métaphorique, vous le verrez, mais très illustrative. Et je vais donc vous lire cette petite citation d'une personne qui était restée longtemps berger et qui disait la chose suivante donc. Supposons, me dit un basque revenu à la pratique religieuse, que vous avez un excellent cheval de selle. Vous le laissez dans le désert et le laissez sans le seller ni le monter, non pas 15 ou 20 ans, mais seulement quelques années. Après cela, essayez donc de le seller ou le monter, vous verrez comme c'est facile. Donc c'est assez clair. Ce qu'il veut dire, c'est que quand on commence à s'éloigner de la pratique religieuse, qu'on ne revient pas forcément, ou pas de suite du moins. Voilà. Dans son livre, Adrien Gachitegui avance quelques raisons pour expliquer l'éloignement de beaucoup d'immigrés basques aux États-Unis de la pratique religieuse. Donc bien sûr, on en a parlé, hein, l'occupation de bergers. Mais il y a aussi un autre point qu'il faut mettre en avant, c'est que la majeure partie des Basques, donc bien sûr, il y avait beaucoup de Basques à San Francisco ou à Los Angeles qui étaient de gros bourgs et puis ensuite les grandes capitales qu'on connaît maintenant et qui étaient donc dotées assez tôt d'églises, etc. Mais pour ce qui est des autres lieux, non. Et c'est vrai que la majeure partie des Basques se sont installés dans des zones rurales et dans des lieux très reculés où tout devait être créé. Donc c'est vrai que là, c'était beaucoup plus difficile. Souvent dans des ranchs, des fermes isolées, loin des bourgades. Vous le savez aussi, la pratique religieuse est bien souvent liée à une langue, et c'est vrai que ces personnes qui se retrouvaient dans un pays où ils ne comprenaient pas la langue anglaise, ou même quand enfin ils réussissaient à la parler un petit peu, etc., ça n'était pas leur langue maternelle. Et c'est vrai qu'au moment de se confesser, par exemple, ça peut être un frein. Par exemple, se dire que ce prêtre ne nous comprend pas aussi bien, hein? Voilà. Donc voilà des points qu'il mettait en avant. Et enfin, Adrien Gachetegui parle aussi de la responsabilité de l'Église qui a envoyé très peu de prêtres aux États-Unis au service des Basques qui s'installaient là. Vite fait, on va parler un petit peu du cas de l'Amérique du Sud, avant de se recentrer sur les États-Unis, pour dire que la majeure partie de la vague migratoire du Pays Basque est allée vers le sud des Amériques et surtout en Argentine et en Uruguay. Et c'est vrai que assez vite, il y a eu des initiatives également pour aller au service spirituel des Basques qui étaient donc installés là-bas. Donc, il faut qu'on parle par exemple de la congrégation du Sacré-Cœur de Jésus de Betaram, qui avait été fondée en 1832. Beaucoup d'entre vous savent que c'était Gary Coates qui avait fondé cette institution. Gary Coates, donc, qui était de Basse-Navarre aussi, d'Ibar. Et donc, en plus de leur mission de développer l'apostolat dans les zones rurales, de créer des écoles, à partir des années 1850, une des missions qu'ils s'étaient données aussi, les Betahamites, c'était de développer des missions à l'étranger. Et c'est comme ça que vite, en 1856, un groupe de Betahamites, qui était dirigé par M. l'abbé Guimond, qui était un sous-lieutenant, donc se rend à Buenos Aires. Et là, ils ont eu la charge donc, de l'église de San Juan, et c'est de là, à partir de cette église-là, qu'ils organisaient des missions auprès des Basques qui habitaient à Buenos Aires et dans les alentours. Ils ont également créé des écoles, dont une école qui est très très connue parce que le futur président Hippolyte Irigoyen, deux fois président d'Argentine, avait étudié dans cette école. C'est le collège San José. Voilà. Ensuite, une autre personne très importante qui était également un Betahamite était Francisco Lapitz. Francisco Lapitz qui lui était né en Navarre, mais qui ensuite avait grandi à Irichari, donc lui aussi en Basse-Navarre. Et il avait été à l'initiative de la création de la société d'aide mutuelle Eskualetxea en 1905, qui était une grosse institution parce qu'il y avait deux écoles, une maison de retraite, un orphelinat. Enfin, vous voyez, il y a eu beaucoup de dynamique là en Amérique du Sud. Et il faut savoir que les pères, que beaucoup de pères bénédictins de Belloc et des servantes de Marie d'Anglet également sont allés donc à Buenos Aires, en Argentine et en Uruguay aussi pour aller donc servir les Basques là-bas. Donc ça, en deux mots, pour parler un petit peu d'Amérique du Sud. Ensuite, les États-Unis, bien sûr, le développement de l'Église catholique est lié à l'arrivée massive d'Européens, bien sûr, donc fin 19e siècle, début 20e siècle pour les États-Unis. Et bien sûr, ces personnes qui arrivaient massivement étaient issues d'horizons très différents. Ils parlaient tous des langues différentes. Et ils arrivaient dans un milieu à majorité protestant. Donc il fallait que l'Église catholique s'organise un petit peu. Et l'une des stratégies là était de faire venir les prêtres d'Europe pour donc servir ces communautés immigrées. Et dans certains cas, l'Église catholique également laissait les immigrés créer leurs propres églises. Donc si on parle un petit peu du cas basque, il y a eu très peu d'églises basques, de paroisses basques qui se sont créées aux États-Unis. Il y en a eu juste une dans les années 1920 à Boise, à Idaho. Et ça on le sait de par le grand travail effectué par William Douglas et John Bilbao dans leur livre American Walk. Si vous avez l'occasion de le lire, il est vraiment très bien. C'est encore considéré comme la Bible hein, pour ceux qui touchent à l'immigration des Basques. Et donc beaucoup de Basques participèrent à l'érection de plusieurs églises. Donc par exemple, alors on va essayer de les situer là. Alors comme c'est très loin, je vais prendre ma baguette magique et vous montrer quel endroit on parle. Donc à Jordan Valley, donc vous voyez ici l'Oregon, donc à Jordan Valley, là par exemple, c'est les Basques qui créent la première église. Ensuite, ici, nous sommes dans le Nevada, donc à Garneville, ici, et à Elko également. Et ensuite, dans deux petites villes, Volta et Fullerton. Alors, Volta n'est pas noté là, mais c'est à côté de Los Baños, et Fullerton, c'est à côté de Los Angeles, là. Voilà. Donc je rappelle, c'était Los Angeles n'était pas la grosse, comment dire, la grosse ville qu'on connaît maintenant, et donc il y avait plein de petites villes autour encore, hein. Et beaucoup de ranchs, etc. Et donc un des collaborateurs de Californiaco Escualeria, donc Californiaco Escualeria, qui est donc le mensuel qui est paru dans les années 1890 en Californie, donc le mensuel de Jean-Pierre Goitino. Donc un des collaborateurs déplorait un jour qu'aucun prêtre ne soit envoyé au service pastoral des Basques. Et ici vous avez donc ce qu'il disait. Nun dira hemen gure arteko apesak. Ez amerikanoak, bairan gure herritakoak. Ez anglesak, bairan euskualdunak. Ez ten bada hau gauza lastimagarria. Apes gazte honetarik, zonbait airahaz nolaz bait alde hotat. Hemen hatxemanen dute lauraino txitsi eta ahnoan. Hemen hatxemanen dute bertzale adiskide frango eta beren bihotzeko kartxutasunaren enplegu. Donc, Il faut savoir que l'évêque de Los Angeles, Monterrey, donc c'était le diocèse, hein, Los Angeles-Monterrey, là à la fin du XIXe siècle et début du XXe siècle, avait sollicité très tôt l'évêque de Bayonne, donc dès la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, pour qu'il envoie des prêtres au service des Basques. Et on sait également que la communauté basque était en contact direct avec l'évêque de Bayonne parce que d'après donc les archives de l'évêché de Bayonne, si on regarde le bulletin diocésain du début du XXe siècle, on se rend compte que les Basques au début du XXe siècle, en 1907, avaient offert un anneau en or à Monseigneur J.R., qui était donc l'évêque à cette époque-là. Donc il y avait des contacts réguliers. Mais c'est vrai que le diocèse n'envoya des prêtres directement que très tard, hein, on en a parlé, donc en 1961. Donc la première initiative de prêtres qui allait donc arriver en Californie pour la mission basque est arrivée d'ailleurs. Elle est arrivée de Oklahoma, qui est donc un état en plein centre des États-Unis, et c'est de ça qu'on va parler maintenant. Donc c'était venu à l'initiative de la congrégation bénédictine Sacred Heart ou Sacré-Cœur. Donc là aussi, pour un petit peu comprendre ce qui a amené des bénédictins de cet état-là à venir aider les Basques en Californie, il faut un petit peu revenir un petit peu en arrière. Donc il faut d'abord parler du monastère bénédictin de Pierre-Quivir dans Lyon. qui avait été créé en 1849. Et sa mission était donc de former et envoyer des missionnaires à l'étranger. Et ces deux bénédictins qui avaient été donc formés là, qui s'étaient rendus en 1875 en Oklahoma. Alors, ce n'était pas encore l'État d'Oklahoma, hein, c'était un territoire, une réserve indienne, des Indiens Potawatomi. On ne parlait pas d'Oklahoma encore. Donc, c'était une terre de mission, vraiment. Et donc, ils créèrent la mission du Sacré-Cœur de Jésus en Oklahoma en 1875. Voilà. Ensuite, là, il faudrait qu'on parle également d'une personne native de Cibourg, qui est donc Thomas Dupérou. Donc Thomas Dupérou, lui, avait été ordonné prêtre en 1868. Il avait été enseignant à La Ressort, mais très tôt, il avait eu envie d'aller au service des Basques en Amérique. Et il avait essayé, avec d'autres prêtres à Asparin, d'aller en Amérique du Sud, mais en 1870, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la guerre franco-prussienne éclata, et donc il dut revoir un petit peu ses projets. Donc, après la guerre, ce qu'il fit, c'est qu'il il se rendit à Pierre-Quivire, donc dans Lyon, où il se forma. Et ensuite, avec un autre prêtre, Augustin Bastre, ils créèrent Notre-Dame de Belloc à La Bastide, qui était donc une dépendance de Pierre-Quivire pendant quelques années, et qu'ils érigèrent ensuite en abbaye un peu plus tard, en 1883. Donc l'abbaye de Belloc qu'on connaît bien. Et donc ça, c'est des données qui sont importantes pour comprendre tout ça, parce que à partir de 1879 en France, qu'est-ce qui se passe? Il y a un contexte très particulier, des lois anticléricales, avec par conséquent beaucoup de prêtres qui avaient été contraints de partir de France. Et donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les bénédictins de Belloc se rendent en Guipuscoa et créent un monastère là-bas à Lascano. Et de même, les bénédictins qui étaient à Pierre-Quivire doivent également partir, et ils s'en vont en Angleterre, à Buckfast, où ils créent également un autre monastère. Et donc c'est un petit peu intéressant de voir qu'en fin de compte, ces lois anticléricales qui, malgré elles, ont donné un petit peu cette main-d'œuvre nécessaire au développement des missions à l'étranger. Parce que tout ça fit que toutes ces personnes ont dû repartir du Pays Basque, de France, et partir ailleurs. Et beaucoup allèrent ensuite, comme ils avaient des relations, en Oklahoma. Et c'est comme ça que beaucoup de Basques se retrouvèrent en Oklahoma quelques années plus tard. D'ailleurs, Thomas Dupérou, dont on a parlé là, ce qu'il fit, c'est que de Belloc, il partit donc à Buckfast, donc à l'Angleterre, et ensuite de Buckfast en Oklahoma pour aller diriger donc la mission d'Oklahoma, la mission du Sacré-Cœur d'Oklahoma à partir de 1884. Donc on va vite fait situer l'état d'Oklahoma ici sur cette carte. Vous voyez, c'est cet état-là, au nord du Texas. Voilà, ici, en plein milieu des États-Unis. Donc, on l'a dit, hein, Dupérou. Donc, Dupérou qui donc dirigea l'institution d'Oklahoma à partir de 1884. Et comme bien sûr, il avait un lien direct avec Belloc, qu'il avait créé avec Bastre. Donc c'est vrai que Belloc devint ensuite le principal fournisseur des bénédictins pour Oklahoma ensuite. Ici nous avons une liste, par exemple, de personnes. Alors peut-être que ça vous dit quelque chose, ces familles-là. Bon, après c'est loin, hein, c'est la fin du 19e siècle, mais en 1888, par exemple, il y a les abbés Léo Garriador, Hippolyte Topette et Guillaume Hospital qui arrivent. En 1889, les candidats à l'ordre Placide Arismendi et Gratien Ardanz, frères Martin Larrand, Théodora Issaguer, Justin Belsa et Casimir Etchecholi, les sœurs Gabrielle Hospital, Eurosie Hospital, Joséphine Irigoyen, Anselme Harran. En 1993, frères Blaise, Richard Valette, l'abbaye Delphonse et Lissalde, les frères laïcs Laurencio Ramirez et Thomas Sotorucha, les séminaristes Aloysius, Ita et Vincent Montalibet. Alors ça, c'est des noms trouvés tels quels dans les archives. Il y a peut-être des petits problèmes, voilà, ça a peut-être été mal retranscrit, mais bon, voilà comment je les ai trouvés, ces noms, et je vous les retranscris tels que je les ai trouvés. Et on peut penser aussi par certains noms de famille, peut-être que c'était des bénédictins ou des frères, enfin pas encore bénédictins, mais bon. Par exemple Thomas Sotorucha, bon, on peut peut-être penser qu'il avait été lui formé à Lascano par exemple, comme ça, parce qu'il y avait également des liens entre l'abbaye, donc le monastère de Lascano, Belloc, Pierre Quivir, on l'a vu, donc voilà. Bon, je vais passer là assez rapidement. On sait que des relations ont commencé entre Oklahoma et les Basques de Californie, mais assez tôt. Et c'est donc pas anodin aussi que ces premiers contacts se fassent pendant. Avec l'arrivée, bien sûr, et à partir de l'arrivée de Thomas du Pérou en Oklahoma. Parce qu'il était, bien sûr, sensibilisé sur ce besoin d'aider les Basques. On sait qu'en 1899 et 1904, des bénédictins effectuèrent des voyages en Californie pour aller un petit peu voir quelle était la situation et pour voir s'il pourrait ou non peut-être créer une institution bénédictine en Californie pour ensuite de là aider les Basques qui habitaient autour. Et c'est comme ça qu'en 1905, le diocèse de Los Angeles-Monterey décide d'admettre deux bénédictins dans son diocèse et leur permettre également de créer une structure bénédictine sur son diocèse. Et là, c'est Léo Garriador et Gracia Ardanz qui arrivent en Californie. Et ces deux personnes, ces deux prêtres étaient cousins, premiers cousins. Ils étaient les deux natifs des Aldudes. Alors, quand ils arrivent, ils cherchent un endroit. Et là, le Monseigneur Conati, qui était donc l'évêque de Los Angeles à cette époque-là, leur demande de s'installer temporairement à Tehachapi, qui était un territoire de mission alors. Parce que, bon, comme on l'a dit, ça se développait petit à petit. Donc, il n'y avait pas encore d'église ni rien. Donc, pendant un an, ils étaient là-bas. Ils ont un petit peu organisé les choses d'un point de vue religieux autour de Tehachapi. Tehachapi, pour ceux qui ne savent pas où c'est à peu près à 150 km de Los Angeles et à côté de Bakersfield. Peut-être que ça vous sonne un peu plus, Bakersfield. C'est en Californie, hein. Et donc après avoir passé un an à Tehachapi, il s'installe à Montebello qui est donc qui était une ville à côté de Los Angeles. Et c'est là qu'ils installent donc leur institution. On a ici une photo de Léo Garriador qui va donc passer 4 ans comme prêtre itinérant au service des Basques en Californie et au-delà. Donc, il était des Aldudes. Dans une lettre à Léo Garriador et à Gratien Ardanz, Monseigneur Conati définit un petit peu le rôle de ces bénédictins sur son diocèse. Donc, leur devoir premier, alors c'est en anglais, je pensais l'avoir traduit, mais non, mais alors je vais vous le faire en français. Donc leur rôle premier, leur devoir premier doit être le service pastoral des Basques du diocèse. Bon, comme on le verra, ils ne se cantonnaient pas qu'aux Basques du diocèse, ils allaient aussi au-delà du diocèse, en Californie, surtout de la Californie et d'autres États. Ils bénéficiaient de droits quasi paroissiaux sur des villes autour de Los Angeles, donc Montebello, Newark, Rowland, La Puente. Il pouvait aussi être amené à assister le clergé du diocèse. Donc, ils avaient de quoi faire. Donc, ces prêtres basques itinérants faisaient de nombreux voyages à la rencontre des Basques. Donc là, on est au début du XXe siècle, hein. Il n'y a pas de voiture, il n'y a rien. Donc, ça veut dire prendre le train et puis ensuite, là où s'arrête la station, eh bien, on s'arrête. Et ensuite, on vient nous chercher à cheval ou je ne sais pas comment. Et ensuite, il y a encore beaucoup, beaucoup de kilomètres à faire. Et donc, c'est vrai que leur travail se faisait surtout en Californie, mais ils faisaient également des voyages aussi loin qu'au Wyoming. Alors, pour comprendre un petit peu, oui, j'ai ici la carte. Alors, parce qu'on a beaucoup de chance, on a beaucoup de chance parce que Leo Garriador tenait un journal. Et donc, mais dans une année, il faisait lui aussi beaucoup, beaucoup de kilomètres. Parce que bien sûr, il partait de Los Angeles, ensuite il restait là avec les Basques, bien sûr, autour, mais ensuite il allait également à San Francisco, et ensuite de Reno, il était allé jusqu'à ici, hop, 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 jusqu'à Buffalo, Wyoming. Alors il faut savoir qu'entre Reno et Buffalo, Wyoming, il y a 1 500 km. Voilà. Mais il ne s'était pas arrêté là, parce qu'il avait été invité par un grand propriétaire au vin qui était Jean Esponda, qui lui habitait plus loin que Buffalo, à Hazelton. Donc, il s'était rendu à Hazelton. Oui, mais le ranch de Jean Esponda avait beau être à Hazelton, avec un 30 km jusqu'au ranch, depuis Hazelton. Voilà. Donc, vous voyez, c'était pas simple. Et d'après le journal aussi de Léo Garriador, on apprend qu'il avait un neveu au Wyoming, et on peut penser qu'il était sans doute berger, qu'il devait peut-être travailler pour Jean Esponda. Bon, ça, il faudra un petit peu rechercher la question. Bon, l'institution donc bénédictine de Montebello, qui a donc été instituée par ces Basques, va toujours rester une dépendance de Oklahoma. Et une vingtaine de Basques sont passés par cette institution à Montebello et ont travaillé avec les Basques qui étaient là de Californie. Et il y avait donc des bénédictins au service des Basques là, surtout en Californie, mais ils effectuaient également des voyages ponctuels aussi loin que le Wyoming, comme on l'a vu. Donc ça, c'était entre 1905 et jusqu'à la mort du dernier basque itinérant, qui était Charles Espelette, en 1958. Et je crois que j'ai une photo, voilà, de Charles Espelette. C'est vrai que Charles Espelette, comme les autres prêtres, hein, c'était beaucoup investi dans la communauté locale. Et c'est par son initiative, par exemple, que l'association basque de La Puente avait vu le jour, donc le Southern California Eshkalum Club en 1946. Et c'était lui également qui enseignait les danses basques aux jeunes. Voilà, à La Puente. Donc maintenant, on va passer à une période un peu plus proche de nous, même si les bénédictins, hein, étaient en Californie, là, jusqu'à la fin des années 50. Alors, qu'est-ce qui se passe en 1949? Alors, vous en avez peut-être entendu parler, vous vous rappelez peut-être qu'il y avait eu un crash, hein, un avion qui s'était donc crashé, comme on dit, avec le fameux boxeur très connu Cerdan. Et c'est là que le monde, enfin le monde, ou du moins la France, s'était intéressée au cas de ces bergers basques qui allaient aux États-Unis. Parce qu'il se trouve que dans cet avion, il y avait deux, trois malheureux bergers basques. Donc c'est vrai que les médias commencent à en parler. Et qu'est-ce qui se passe là en même temps? Eh bien, l'abbé de l'abbaye de Belloc conseille donc Adrien Gachitegui d'aller terminer ses études aux États-Unis. Alors, pour deux raisons, donc terminer ses études, hein, mais également effectuer un travail de terrain sur la situation des Basques aux États-Unis. Et c'est comme ça qu'il se rend donc d'abord en Oklahoma pendant 2 mois, parce qu'il y avait bien sûr ce lien entre Belloc et le Sacred Heart d'Oklahoma. Donc il va d'abord perfectionner son anglais, parce que d'après ce qu'il m'a expliqué quand je l'ai interviewé, il ne parlait pas du tout anglais, il parlait très bien espagnol mais pas anglais. Donc pendant 2 mois, il a appris l'anglais là avec les bénédictins d'Oklahoma. Et ensuite, il s'est donc inscrit à l'université de Davis. Il a travaillé à la paroisse de l'université là-bas. Il avait la charge de la population hispanophone. Et entre mai et décembre 1950, il a donc effectué son travail de terrain auprès des Basques dans l'Ouest américain. Et voilà une photo de Adrien Gachitegui. C'est une photo de l'année dernière, de 2016, où il présentait la réédition de son livre, parce que la première édition avait donc été en 1955, et l'année dernière ils ont décidé de rééditer son livre. Il était en train donc là de présenter ça au Musée Basque. Et donc suite à son travail, il faut savoir que l'évêque de Bayonne lui avait proposé de devenir le premier aumônier des Basques envoyé par le diocèse de Bayonne. Mais bon, Adrien Gachitegui avait d'autres projets pour le Pays Basque, comme vous le savez. Et donc il déclina l'offre et c'est donc Monsieur l'abbé Lureau qui fut le premier aumônier à être envoyé par le diocèse de Bayonne au service pastoral des Basques aux États-Unis. Alors, nous avons ici la liste des différents aumôniers qui se sont succédés. Jean-Léon Lureau d'Arax entre 1961 et 1964. Jean Chalet d'Asparin, 1964-1970. Guillaume Copentipi de Villefranque, qui resta un peu moins d'un an, 1970-1971. Jacques Salaberrimbord de Dossuruc, 1971-1977. Jean-Pierre Cachonneau d'Ioldi, qui lui resta 9 ans, 1977-1986. Il aurait voulu être ici parmi nous, mais bon, il était très pris, comme tous les prêtres ici. Jean-Pierre Etcheverry de Hélette, entre 1986 et 1989. Jean-Élie Sagaray de Bussenaritz, entre 1991 et 1994. Et enfin, Marcel Tillius d'Escule, entre 1994 et 2009, qui lui resta donc 15 ans. Voilà, je suis sûre que vous en connaissez beaucoup. Donc quand ils arrivèrent en 1900, avant que le premier aumônier arrive, il fallait voir un petit peu comment les faire venir d'un point de vue de l'immigration, qui n'est pas simple aux États-Unis, voir un petit peu qui serait responsable de ces prêtres, etc. Et donc... il venait avec l'accord de la délégation apostolique de Washington DC et la caution du diocèse de Monterrey-Fresno. Voilà. Mais tous ces prêtres qui arrivaient sur le sol américain devaient à chaque fois demander une permission aux 17 évêques où ils seraient amenés à prêcher. Parce qu'il faut savoir que c'était la paroisse basque la plus grande, n'est-ce pas? 17 diocèses devaient aller. Mais oui, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'États là. Toute la Californie, le Nevada, le Colorado, le Montana, le Wyoming, etc. Et à chaque fois, pour pouvoir donner la messe dans les églises ou même donner des messes même dans des parcs, etc., ils avaient besoin de la permission de l'évêque, voilà, de tous ces diocèses où ils devaient se rendre. Et des fois, ils avaient quelques oppositions, et mais par exemple, l'abbé Chalet explique dans un de ses nombreux rapports qu'il a envoyé régulièrement au diocèse de Bayonne que le prêtre de Elko s'était opposé à ça et qu'il avait seulement pu écouter les confessions des Basques, qu'il n'avait pas pu donner la messe. Et c'est vrai qu'il exprimait là un petit peu, voilà, un petit regret là. Bon, à la fin des années 70, les choses furent un peu plus simples parce qu'ils furent reconnus directement par la conférence épiscopale des États-Unis. Et ce qui vraiment les aidait beaucoup parce qu'ils n'avaient pas à demander la permission à tous ces différents diocèses où ils seraient amenés à travailler. Voilà une très jolie photo des abbés Cachenos à la Berenborg de Chalet et Luro. Hein, voilà, hein, de gauche à droite. Hein, voilà. Cachenos à la Berenborg de Chalet et Luro, il y a quelques années. On va parler un petit peu du rôle des aumôniers. Alors c'est vrai que Luro fit un travail très très important parce que c'est lui qui posa un petit peu l'apostolat basque aux États-Unis. Et au bout de 3 ans, il avait réussi à collecter 3000 adresses de familles basques installées là-bas. Et il avait visité les différentes communautés basques, ou du moins les lieux où il y avait un nombre significatif de Basques dans l'Ouest américain. Et ses successeurs, bien sûr, développèrent donc le travail qu'il avait commencé et l'adaptèrent aussi parce que bien sûr, là dans les années 60, dans les années 70, 80 aussi, il allait y avoir une grosse évolution parce que de moins en moins de Basques allaient y aller déjà. L'occupation aussi serait autre que berger, le vieillissement de l'immigration, etc., etc. Donc il fallait bien sûr adapter au fur et à mesure leur apostolat. Une citation très intéressante de Chalet est qu'il parlait d'apostolat pêche à la ligne, c'est-à-dire qu'il devait vraiment aller là où il y avait les Basques, etc., et que ce n'était pas très facile. Parce que c'était la paroisse la plus très étendue, n'est-ce pas? Une paroisse très étendue. C'était bien sûr des prêtres atypiques, leur travail était atypique parce qu'ils devaient administrer les sacrements dans des lieux très divers. Dans des camps de bergers, dans des ranchs privés, dans des maisons privées, dans des parcs, par exemple, quand avaient lieu les festivals basques. Donc, c'est assez atypique quand même. Pour avoir également lu les archives donc rédigées par Chalet, mais également avoir parlé avec l'abbé Cachenot ou l'abbé Tillius. Et ils expliquaient que c'était un travail très solitaire, parce que comme ils n'étaient pas basés dans une paroisse avec d'autres prêtres, ils n'avaient pas l'occasion de vraiment partager leur action ou exprimer leurs doutes, etc., sur leur travail. Donc c'était un travail très, très, très solitaire. Et de par aussi tous ces kilomètres qu'ils devaient effectuer d'une communauté à l'autre, ils étaient bien souvent seuls dans leur voiture à faire tous ces kilomètres-là. Et donc, ils passaient beaucoup, beaucoup de temps sur les routes, ils dormaient chez l'habitant, dans les motels, et beaucoup dans la voiture également. Et donc, leur situation aussi était qu'ils dépendaient du bon vouloir de leurs paroissiens, hein, les Basques américains. Donc, ici, je vais prendre juste une petite citation de l'abbé Chalet qui écrivait. Dans un de ses rapports adressés au diocèse de Bayonne en 1966, et je continue de rassurer, je ne demande pas d'argent. Quand en une cérémonie religieuse destinée aux Basques, j'organise une quête, j'en laisse toujours la totalité à l'église du lieu. Les Basques, par ailleurs, sont très généreux avec moi, et je n'ai pas de problème pour ma subsistance. Oui, parce que là, il y avait beaucoup de coûts, c'est vrai, il y avait la voiture, l'assurance de la voiture, l'essence, les motels qu'il fallait payer, etc. Et voilà, mais ils ne demandaient rien au diocèse parce que les Basques aux États-Unis étaient apparemment assez, assez généreux pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Alors, je parlais également de toutes ces heures qu'ils passaient sur la route, ces milliers de kilomètres qu'ils faisaient sur une année. Et c'est vrai que leur bidet Laguna, leur compagnon de route, était bien souvent leur voiture que au moins Marcel Tillius avait un petit peu personnifié parce qu'il avait eu deux voitures. La première, il l'avait donc baptisée Chimista et la seconde Potioka. Voilà. Vous avez ici sa plaque d'immatriculation parce qu'il est possible aux États-Unis de personnaliser les plaques d'immatriculation. Donc voilà. Et c'est vrai que j'avais eu la chance, une fois pour mon travail, il avait fallu que je me rende de San Francisco à Bakersfield, donc c'était 6 heures de route. Mais il avait fallu qu'on passe la nuit également chez l'habitant, parce que je ne me rappelle plus pourquoi. Et une famille avait insisté, ah oui, parce qu'il fallait toujours insister pour que Marcel Tillius aille chez l'habitant, parce que sinon il dormait dans sa voiture. Voilà, il aimait bien ça. Et donc, la famille avait insisté. Alors moi, j'étais très contente de pouvoir dormir dans un lit. Et le lendemain, on s'est rendu compte avec nos hôtes qu'il n'avait pas défait le lit. Il avait dormi par terre. Voilà. Ah, il était très content voilà, d'être sous un toit. Mais bon, apparemment, il avait passé plus de 30 ans en Afrique. Et il disait que, qu'il aimait bien quand c'était dur. Donc il dormait par terre, très rarement dans un lit. Alors, le rôle des aumôniers était bien sûr un rôle tout d'abord spirituel. Le but n'était pas d'établir une paroisse basque. D'ailleurs, Chalet l'explique dans un rapport d'activité. Mon effort n'est pas, je crois, à diriger dans ce sens. Dans tous mes rassemblements, j'insiste au contraire pour que chacun, dans sa paroisse ou son quartier, fasse partie comme membre et au besoin comme dirigeant des œuvres locales déjà existantes. Pour qu'au milieu de tant de gens d'origine, de race ou de religion différentes, les Basques soient les meilleurs des hommes et des catholiques. Les Basques se réunissaient en grand nombre pour assister aux différents rendez-vous religieux organisés par ces prêtres, donc lors de mariages, d'enterrements, les messes dans les camps de bergers, lors des confessions qu'ils entendaient, les festivals basques, les missions. C'est vrai que les dernières années, la participation aux missions avait baissé, mais dans les années 60, 70, 80, c'était 200, 300 personnes qui se retrouvaient dans les missions qu'ils pouvaient organiser autour de Pâques, par exemple, à San Francisco, à Bakersfield, voilà. Il y a une autre citation très intéressante aussi de Chalet, toujours, de M. l'abbé Chalet, qui décrit très bien son apostolat sur une année. Au détail près, mes années d'apostolat auprès des Basques d'Amérique se ressemblent comme des feuilles d'un même arbre. Durant et après le carême, mission de 8 jours dans les centres importants des Basques de Californie. Au printemps, visite du nord de la Californie. En juin, messe de berger. En juillet, visite du Nevada. En août, séjour en Utah et au Wyoming. En septembre, visite du Montana. Sur le chemin du retour, passage et séjour au Colorado. En novembre, quelques missions en Californie. Noël. Et le cycle recommence, le tout entrecoupé de longues courses pour des mariages, baptêmes et enterrements. Donc, juste encore pour rafraîchir la mémoire, on parle de cette distance-là. Hein. Enfin, je veux dire, prenons le Nevada, c'est plus grand que la France. Hein. Donc voilà, donc toute la Californie, le Nevada, vous voyez, le Wyoming, le Montana est là, le Colorado est là. Vous voyez un petit peu tous ces kilomètres qu'ils parcouraient. Oui, on disait qu'ils étaient des fois amenés à célébrer la messe dans des lieux atypiques. Et bien voilà une photo, par exemple, un exemple. Une photo prise en 2006 lors du festival basque de Bakersfield qui va avoir lieu là bientôt parce que c'est toujours fermé qu'a lieu ce festival à Bakersfield. Voilà. Voilà donc Monsieur l'abbé Tillius, Aïda Tillius, a célébré la messe sur le mur à gauche du centre culturel basque. Du Kern County Basque Club, qui est donc l'association basque de Bakersfield. Alors, un rôle d'abord spirituel, mais social et culturel également. Ah, vous voyez, ça non plus, je ne l'ai pas traduit, mais je vais le faire directement avec vous, parce que c'est quand même très intéressant et ça nous explique un petit peu le travail qu'ils avaient à effectuer, qui était bien sûr spirituel, mais également social et culturel. Alors, mon père, notre mère vient de mourir. Est-ce qu'on pourrait tous se retrouver et célébrer une messe en son honneur? Excusez-moi, la traduction, c'est du à peu près, hein, parce que je le fais là maintenant avec vous. Mansik est malade, s'il vous plaît, priez pour lui. J'ai une opération là, mardi, s'il vous plaît, pensez à moi. Notre jeune couple est en train d'avoir quelques problèmes, ça fait mal. Quand est-ce que nous pourrions baptiser notre petite fille? Notre fille va se marier. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques chants basques pour les chanter tous ensemble? S'il ne pleut pas assez vite, notre bétail et notre futur seront en danger. Après beaucoup de souffrances, il est décédé. Est-ce qu'on pourrait avoir une belle cérémonie comme au Pays Basque? Je suis vieux et seul. S'il vous plaît, venez me voir une fois de plus. Je suis très loin de tout le monde. La vie n'a pas été facile. Voilà. Et à la fin, alors ça c'est l'abbé Elisa Garay qui avait écrit cet article dans un fascicule de l'association basque de Bakersfield pour montrer vraiment que son travail était très divers et qu'il était important pour le diocèse de Bayonne de continuer à envoyer du monde. Voilà. Parce que les dernières années, c'est vrai qu'il devait un petit peu débattre, comme il y avait aussi une grande pénurie de prêtres ici au Pays Basque. Voilà. Mais après l'abbé Elisa Garay, l'abbé Tillius vient aussi s'occuper donc des Basques en Californie et au-delà. Donc le prêtre, c'était aussi le lien de la communauté, une figure stable. Donc on a dit qu'au début, l'abbé Luro avait collecté à peu près 3000 adresses. Et là, bien sûr, il se passait cette adresse. Il y avait un grand travail aussi de collectage, certes, mais ensuite, il devait bien sûr un petit peu revoir ses adresses, certaines qui changeaient, etc. Donc, il y avait un gros travail sur ça. Et l'abbé Tillius avait également une liste d'adresses de 5000 familles à la fin. Et il mettait aussi en avant que c'était, bien sûr, que ces prêtres étaient envoyés par le diocèse de Bayonne pour être au service des personnes ressortissantes du diocèse de Bayonne, mais les prêtres basques, en fin de compte, dans leur apostolat, ne faisaient pas la différence entre les Basques d'Iparralde ou les Basques de Hegualde. Il faut savoir qu'en Californie, les Basques étaient mélangés dans les associations, etc. En Californie, c'était une majorité de Basques d'Iparralde et de Navarre. Voyez, alors que dans le Nevada, là, il y avait également, en plus des Navarrais et de ceux d'Iparralde, il y avait également des personnes de Biscaye, par exemple. Donc c'est vrai que les prêtres basques ne faisaient pas de différence sur ça. Juste deux mots pour dire que le diocèse de Gasteiz, Vitoria, avait envoyé des prêtres également pour la population, surtout biscayenne, dans l'Idaho et l'Oregon, mais ce jusqu'aux années 1960, et donc à partir des années 1970, les prêtres envoyés par le diocèse de Bayonne allaient également célébrer des messes en Oregon et en Idaho également, vers ces populations en majorité biscayennes. Ici une photo donc également. Donc en 2006 à Bakersfield, il y avait la colonie, parce qu'ils organisent un Udaleku colonie pour les jeunes entre 10 et 15 ans, et une centaine de jeunes de partout aux États-Unis se retrouvent pendant 2 semaines. Et ils apprennent à danser, à parler un petit peu également en langue basque, font des activités tous ensemble. Et l'abbé Marcel Tillius y allait chaque année également, et c'était leur instructeur de Tchichtou, par exemple. Et donc, pour conclure, l'apostolat donc a beaucoup évolué, hein, parce que justement l'activité de berger et l'immigration ont décliné. C'est vrai qu'au fil des années, le nombre des rendez-vous religieux également avait baissé. Et l'apostolat, avant, Si par exemple l'abbé Luro organisait son apostolat autour des camps de bergers, etc., et bien vers la fin de l'apostolat avec Marcel Tillius ou même Elisa Garay juste avant lui, c'était plus possible parce qu'il n'y avait plus de basques bergers. Il organisait plus autour des festivals basques. Voilà, parce qu'il y a des festivals basques dans différents états, différentes locations, voilà, tout au long de l'année, et ils s'organisaient donc par rapport à ces festivals basques. Quand l'abbé Tillius avait été donc nommé à l'apostolat auprès des Basques aux États-Unis, l'évêque de Bayonne avait fait savoir que ce serait le dernier qu'ils enverraient. Et donc Marcel Tillius est décédé en 2009, et donc depuis lors, le diocèse de Bayonne n'envoie plus de prêtres au service des Basques aux États-Unis. Voilà, il y a eu juste un petit changement il y a 3 ans, parce que on a appris que un prêtre était arrivé à Boise, Idaho, au service des Basques de là-bas. Donc maintenant, les Basques américains de l'Idaho, du nord du Nevada et de l'Oregon ont leur APESA, celui qu'ils appellent Goulé APESA. Voilà. Donc, merci beaucoup.
L'histoire des aumôniers des Basques aux États-Unis, vous venez de suivre une conférence d'Argitxu, Camus et Checopar, historienne, conférence organisée par les Amis de la Vieille Navarre, enregistrée à la mairie de Saint-Jean-Pied-de-Port le 20 mai 2017.